Le rendez-vous du libraire. Le rendez-vous du libraire, une émission proposée par la librairie de la Trinité et animée par Agathe de Grey.
Chères lectrices, chers lecteurs, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du rendez-vous du libraire. Cette semaine, cap sur une sélection jeunesse spécialement consacrée aux aventuriers et explorateurs et un 19e siècle fantasmé. Elles sont nombreuses, les fictions historiques plus ou moins imaginaires, qui reprennent à leur compte l'époque de toutes les inventions et de la révolution industrielle. Et dans cet océan de fiction, tissé d'inventeurs, de voyageurs et d'explorateurs d'un autre temps, laissez-moi vous présenter les héritiers modernes de l'esprit de Jules Verne. Les œuvres jeunesse que je vous propose aujourd'hui peuvent toutes être rapprochées de l'esthétique dite du steampunk, qui se passionne pour l'Angleterre victorienne ou encore la France de la Belle Époque, et imagine des avancées technologiques très poussées, mais essentiellement alimentées à la vapeur. Steam, donc, en anglais. Cela donne des œuvres pleines d'automates qui fonctionnent au charbon et non pas au pétrole ou à l'électricité. On y trouve des trains, des dirigeables, et l'on croise nombre de figures historiques et parfois même des éléments surnaturels, mais tout cela n'est qu'un prétexte pour interroger des concepts très actuels, car la révolution industrielle a posé nombre de questions qui trouvent encore leur écho aujourd'hui. Comme le dit Douglas Fetterling, le steampunk est un genre qui imagine jusqu'à quel point le passé aurait pu être différent si le futur était arrivé plus tôt. Autrement dit, le steampunk explore les conséquences des avancées technologiques majeures sur l'histoire et sur les conditions sociales et économiques, tout cela sous couvert de jets de vapeur et de mystères dans le smog anglais.
Le rendez-vous du libraire. Nouveauté de la semaine.
Pour vous faire découvrir ce mouvement esthétique en plein essor, allié idéal de qui voudrait interroger à la fois le 19e siècle et l'histoire des sciences par le biais d'uchronies fantasques, j'ai choisi trois œuvres, deux bandes dessinées et un roman, toutes les trois adaptées pour tout public. Commençons tout de suite avec une série de bandes dessinées de toute beauté, faites entièrement à l'aquarelle. J'ai nommé « Le Château des Étoiles » par Alex Alice. Mise à l'honneur en ce moment par son éditeur, Rue de Sèvres, qui célèbre ses 10 ans, cette série de bandes dessinées a vu son premier tome réimprimé dans une édition collector qui fait la part belle au coup de pinceau d'Alex Alice. On y voit une montgolfière suspendue dans l'espace, surplombant la rotondité de la Terre, aussi frêle que sur les clichés de l'astronaute Thomas Pesquet. Une montgolfière dans l'espace, vous vous étouffez et je vous comprends tout à fait. La chute de la pression atmosphérique dans les régions hautes du ciel aurait au fait de dilater le gaz du ballon, raison pour laquelle évidemment il était bien impossible de commencer une conquête spatiale portée par des ballons d'hydrogène. Oui, mais dans l'uchronie d'Alex Alice, on imagine que l'espace n'est pas vide, mais plutôt plein de cet élément appelé éther et dont l'humanité a traqué l'existence depuis la Grèce antique jusqu'en 1905, où Einstein achève définitivement ce concept. Cet éther, à l'origine un dieu, puis pour Aristote un élément de la sphère céleste, est appelé l'élément le plus pur par Platon et serait doté de la capacité de se mouvoir tout seul, en cercle, sans influence extérieure. Bientôt, cet éther sert à tout expliquer, du mouvement des astres au déplacement de la lumière dans l'espace, et l'on va jusqu'à désigner l'éther comme étant la matière de l'âme elle-même. En bref, cette substance mystérieuse a eu au fait de devenir ésotérique, et cependant personne n'a osé véritablement s'en débarrasser, jusqu'à Einstein, car plus que la nature finalement, c'est bien l'humain qui, semble-t-il, a eu longtemps peur du vide. Point d'éther signifiait effectivement envisager le vide interstellaire, concept qui a révolté la raison de bien des philosophes. L'éther, quel sujet ! Alex Alice s'en empare et imagine une Europe où l'on se lance à la conquête du ciel en montgolfière et en dirigeable. Tout commence lorsque Claire, exploratrice scientifique, disparaît lors d'une expérience alors même qu'elle tentait en ballon d'aller enfin recueillir de l'éther pour prouver son existence et construire un moteur qui pourrait l'employer comme carburant. Claire, hélas, laisse derrière elle son mari Archibald et son fils Séraphin, qui, sans nouvelles, craignent le pire. Mais voilà que bien plus tard, un mystérieux correspondant écrit à Archibald et Séraphin, prétextant avoir retrouvé le carnet de bord de Claire. Voilà nos deux compères embarqués pour la Bavière, en direction du Rocher du Cygne, endroit mystérieux qui semble mener ses propres expériences sur l'éther. Car cette matière suscite bien des convoitises, et Séraphin et Archibald se retrouvent mêlés à des intrigues d'ampleur dans lesquelles s'affrontent Ludwig, roi de Bavière, Bismarck et Élisabeth, impératrice d'Autriche. Car l'empire qui pourra se lancer en premier à la conquête de l'éther et de l'espace aura tout fait d'assurer son hégémonie sur le monde connu. N'hésitez pas à découvrir par vous-même cette excellente série de bandes dessinées, portée par des aquarelles magnifiques de l'auteur et son scénario riche en rebondissements. Émerveillement garanti.
Le rendez-vous du libraire. Le coup de cœur de la semaine.
Pour tous les amateurs de la vie parisienne du début du XXe siècle maintenant, et de rencontres impromptues avec de grands personnages historiques, il existe une trilogie, des romans cette fois-ci, intitulée Le Paris des Merveilles, dont l'auteur est Pierre Pével, et qui nous plonge dans le Paris de la Belle Époque, illuminé par les expositions universelles de la fin du siècle précédent. Mais un Paris singulièrement différent, puisqu'on y trouve Farfadet, Fée et Chat Volant. Car voilà que depuis plusieurs années, l'outre-monde serait entré en contact prolongé avec la capitale française, si bien qu'un portail relierait désormais la dimension du rêve et de la magie à Paris. On trouve désormais des licornes sur les pelouses du Luxembourg et des farfadets dans le bois de Vincennes. Et dans tout ce petit monde, le plus extraordinaire est peut-être Louis Denisard Hippolyte Griffon, mage bien obligé de se faire enquêteur pour le temps d'une trilogie. Car de sinistres complots semblent naître dans les rues de la capitale et la Belle Époque s'avère bien plus dangereuse qu'escomptée. Pour mener à bien son enquête, le mage n'aura d'autre choix que de s'allier à Isabelle Saint-Gilles, une fée renégate qu'il connaît, hélas, très bien. Ce Paris des Merveilles de Pierre Pével a su séduire un large public, heureux de voir le Nautilus émerger dans la Seine et les gargouilles de Notre-Dame s'asseoir pour un pique-nique. Dans la lignée des romans feuilletons du début du XXe siècle, ceux de Maurice Leblanc et de Gaston Leroux, Pierre Pével nous emmène dans une véritable enquête d'époque qui a ravi et ravira encore petits et grands.
Le rendez-vous du libraire. Le coup de cœur de la semaine.
Pour terminer notre sélection, rien de tel qu'une seconde série de bandes dessinées ayant pour décor un Londres victorien très original. Découvrez, dans un scénario d'Audrey Alouette, avec Nora Moretti au dessin et Claudia Boccato à la couleur, une réécriture de Princesse Sarah, inspirée du célèbre roman La Petite Princesse de Burnett. Vous y retrouverez l'histoire de Sarah Crewe, placée au pensionnat en attendant le retour des Indes de son père et traitée là-bas avec bien des égards par la directrice, très intéressée par la fortune familiale. Hélas, à la suite d'un coup du sort, on annonce à Sarah le décès de son père et la perte de l'ensemble de sa fortune. De petite fille choyée du pensionnat, Sarah devient la Souillon et l'on se venge sur elle de toutes les jalousies. Mais en faisant contre mauvaise fortune bon cœur, et surtout en refusant de souffrir l'injustice, Sarah décide que quoi qu'en dise l'état de ses finances et de son sang, elle restera aussi digne qu'une princesse. Passionnée par le récit de Burnett et ses adaptations, c'est avec bonheur qu'Audrey Alouette et Nora Moretti se sont lancées dans une réécriture steampunk de l'œuvre, dans laquelle la fortune paternelle viendrait d'une mystérieuse usine d'automates aux Indes. Les autrices se sont également lancées le défi de faire grandir Princesse Sarah à partir du 5e tome, lorsque, devenue une jeune femme au caractère bien trempé, l'on retrouve notre héroïne en passe de vivre bien des aventures. Ainsi, si les 4 premiers tomes recoupent le roman de Burnett, les suivants imaginent Sarah plus âgée, en route vers des aventures aux 4 coins du monde. Grâce à leur série, les autrices se régalent à mettre en scène en pleine époque victorienne une jeune femme indépendante et courageuse qui refuse toujours de céder à la violence et aux abus d'autorité. Je ne peux que vous conseiller de lire et d'offrir cette excellente adaptation et réécriture du roman La Petite Princesse de Burnett. Voilà pour ce tour d'horizon jeunesse de l'esthétique steampunk, qui vous aura, je l'espère, laissé des rêves de vapeur et d'automate, de haute forme et de dirigeable. Que ce soit par la bande dessinée avec le Château des Étoiles d'Alex Salis, ou bien l'adaptation de Princesse Tara par Audrey Alouette, ou encore par le roman grâce au Paris des Merveilles de Pierre Pével, la sélection d'aujourd'hui vous entraînera en plein dans l'ère victorienne ou dans le tourbillon de la Belle Époque. N'hésitez pas à venir découvrir ces excellents ouvrages jeunesse dans notre librairie de la Trinité de Toulouse. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter d'excellentes lectures. À très bientôt pour un nouvel épisode du Rendez-vous du libraire.